Alors aujourd'hui, Camille, dans tes pérégrinations, où est-ce que tu nous emmènes ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Shigeru Mizuki. Mais avant, je vais commencer par vous poser une toute petite question. Si jamais je vous dis préhistoire du manga, vous pensez à qui ou à quelle œuvre ?
À préhistoire, ok, vraiment.
Ouais, vraiment, genre, non. Les très très vieux mangas.
Goldorak ?
Ouais, on est
moi,
à 70.
Moi, je pense à Astro Boy.
Capitaine Flamme ?
Astro Boy, on est sur du Osamu. Au Capitaine Flamme, c'est un petit peu plus récent, tout petit peu plus récent.
Inuyasha ?
Inuyasha, c'est année 2000. Raté. Oh,
Albator, non, c'est plus récent. Albator 70.
Ah,
Albator, c'est année 70.
Ouais. Et là, c'est quoi tu nous parles en année ?
Alors, du coup, il a été cité, mais on pourrait directement penser à Osamu Tezuka. Et moi, je vais vous parler du coup de quelqu'un qui était à peu près sur la même plage en termes d'années, donc, c'est-à-dire les années 40-50, qui est donc Shigeru Mizuki. Donc lui, il est né en 1922 à Kohama, dans la préfecture de Tottori. Son vrai nom de naissance, c'est Shigeru Mura, et il est second de trois fils. On dit de lui, quand il était gamin, que c'était un enfant qui était très curieux et qui se passionne pour les histoires de monstres qui sont racontées par une vieille femme qui s'appelle Nononba et qui est une simple femme de ménage. Voilà, ni plus ni moins. Donc il va prendre le nom de Mizuki un petit peu plus tard, quand il va grandir et qu'il va diriger une petite auberge qui s'appelle le Manoir Mizuki et où il va dessiner pour des Kamishibai. Voilà. Donc détail qui a son importance à l'époque, il est gaucher.
Comme moi.
Moi aussi.
Écoutez bien la suite parce que ça va vous intéresser alors. Un kamishibai à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une toute petite pièce de théâtre. C'est ce qu'on appelle une pièce de théâtre sur papier. Donc c'est un tout petit théâtre ambulant en bois où les artistes racontent des histoires aux gens en faisant défiler des illustrations en papier qu'ils dessinent eux-mêmes, comme des diaporamas. C'est l'ancêtre du diaporama à l'époque pour raconter des histoires un peu comme des films quoi. On va pour continuer notre histoire, se déplacer jusqu'en 1942. Donc pour situer, c'est les débuts de Frank Sinatra. En France, c'est Maurice Chevalier qui chante La Marche de Ménilmontant. Et c'est les débuts de André Rimbourg, qui est Bourville.
Ah, voilà. C'est vrai.
Au cinéma, c'est Bambi.
Moi, de réaction sur Bambi.
Même pas.
C'est assez vieux. Hein. Voilà, donc à l'époque, Shigeru, il a 20 ans. Et comme c'est la guerre, du coup, il est enrôlé dans l'armée japonaise, envoyé sur l'île de Nouvelle-Bretagne, en Nouvelle-Guinée. Il va très, très mal vivre les combats contre les Américains. Et à la suite d'un bombardement, il va perdre son bras gauche.
Ah, et il est gaucher.
Il est gaucher.
Et son travail, c'est de dessiner. Je commence à comprendre le délire du
livre. Finalement, je pense que c'est une belle histoire. Et...
On va avoir une belle histoire, mais plus tard, du coup. Donc, il va être fait prisonnier. Et au final, il va commencer à louer des liens avec une tribu locale qui s'appelle les Tolai et qui va lui offrir une terre, un domicile et la nationalité quand il va se marier avec une des femmes de la tribu.
Ça va, tranquille. Voilà.
Du coup, il va un petit peu mieux, on va dire. Seulement, au bout d'un moment, il commence à avoir vraiment l'impression d'être un planqué par rapport à la guerre et il va finalement assez mal le vivre. Donc il va discuter avec un docteur militaire du coin et à la suite de ça, il va décider de retourner au Japon au moins pour voir ses parents. Donc il retourne sur son sol natal et quand il pense rentrer en Nouvelle-Guinée, pas de chance parce qu'entre les deux, les Américains, ils ont pris le pouvoir et ils ont pris le contrôle du pays et ils ont coupé les voies de transport. Donc impossible de rentrer en Nouvelle-Guinée, à l'endroit qui était devenu du coup sa nouvelle patrie. On va se déplacer un petit peu dans le temps. On va aller jusqu'en 1956. Voilà. Donc, pour se situer, c'est le rock'n'roll d'Elvis Presley, secoue les States. En France, c'est Jacques Brel qui s'impose avec Quand on a que l'amour. Et au cinéma, on a Jean-Yves Cousteau. Et en face, on a Moby Dick de John Huston.
Voilà. Ça va. Mais j'étais pas allé.
Ça va. J'aime bien la transition entre les deux, entre Cousteau et Moby Dick. C'est vrai que je trouve ça très drôle de faire ça la même année. Jusqu'en 56, donc il va travailler en tant qu'opérateur de théâtre. Et puis il va décider de réapprendre à dessiner avec sa main droite pour redevenir dessinateur. Donc il n'a plus de bras gauche. Hein.
Oui, rappelons-le.
Voilà. Il part de zéro, quoi. Vraiment.
Il part de zéro. En 57, il publie son premier manga qui s'appelle donc Rocketman. Et en 59, il va sortir son manga qui reste encore aujourd'hui le plus connu, qui va à lui tout seul ressusciter complètement le folklore japonais qui était laissé de côté depuis la révolution Meiji et qui s'appelle Gegege no Kitaro. Donc ce sera 9 tomes sortis entre 59 et 69 qui seront adaptés en animé en 68, 71, 85, 96, 2007, 2008, 2018. Soit 540 épisodes.
Ils ont fait deux fois moins bien quoi de piste.
Waouh!
Voilà. Chez nous, ils ont adapté la première et la dernière saison, il me semble. Mais du coup, au Japon, c'est impossible de grandir sans avoir vu Gegege no Kitaro.
Parce que nous,
Kitaro le repoussant.
Ouais, parce que je me dis, c'est nous, c'était pas non plus si populaire que ça, quoi.
Bah, le titre en lui-même est assez cru, assez sombre. Donc chez nous, ça n'a pas beaucoup tourné, quoi.
C'est pas passé chez nous, du coup ? Si, parce que
si, ils l'ont diffusé, mais ils l'ont pas diffusé longtemps.
Ok.
Voilà, l'histoire de Gegege no Kitaro, c'est un truc assez violent quand même. Hein. en 64 qui participe à la création d'un des premiers magazines de prépublication qui s'appelle Le Garo, avec ses titres Kitalo Yawa et Ninpo.
Bien, pour lui, le gars, il avait plus de bras, le Garo. Bravo, écoutez, c'est une vanne qui passera, hein, écoutez.
Voilà, donc c'est aussi un petit peu à cause de lui, si enfin, si, y a eu des magazines de prépublication au Japon, s'il y en a toujours. Voilà. Avec Tezuka, il faisait un petit peu partie des précurseurs. On va se déplacer un petit peu, on va aller en 1971. Donc en France, les chaumières se déchirent entre Pour un flirt de Michel Delpech ou L'Aventura de Stan et Chardin. Déjà peut-être plus connu. Dans le reste,
Allô,
c'est
connu.
Paranoid de Black Sabbath et Black Knight de Deep Purple qui mènent la danse, rythmé par les décès de Jim Morrison et Louis Armstrong. En 71, ils ont sorti un one-shot qui s'appelle Hitler, avec pour objectif d'expliquer aux Japonais la vie de l'homme et comment est-ce qu'ils en étaient arrivés à une guerre entre les États-Unis et le Japon pour le contrôle du Pacifique. Voilà un titre qui est connu pour son exactitude historique et son recul très très juste, seulement 25 ans après la fin de la guerre, et qui va mettre 40 ans à arriver chez nous quand même.
Il s'est perdu en route.
Ouais, ouais. On reparlera des adaptations de chez nous, mais du coup c'est un des premiers à justement parler de Adolf Hitler et à écrire sur lui. En 1977, il va publier Nonnonba, le manga qui est donc basé sur la vieille femme qui lui racontait des histoires de yokai quand il était petit. Voilà, faut savoir qu'il va avoir trois élèves principaux sur cette période, qui sont Ryuichi Ikegami, qui est donc l'auteur de Crying Freeman, ceux qui connaissent, qui ressort d'ailleurs récemment, qui est un très grand manga des années 80-90. Yoshihiro Tsuge, qui est l'auteur de L'Homme sans talons, qui passera un petit peu plus inaperçu, et Takako Yaguchi, qui est auteur de Paul le Pêcheur, plus grand monde se souvient aujourd'hui, mais qui était un animé qui était plutôt connu dans les années 80.
Ce nom me parle.
Paul le Pêcheur, ouais, c'est plutôt connu. Même le monsieur, en soi, a plutôt bien tourné après. On va encore se déplacer un petit peu, on va aller 20 ans plus tard, en 1991. Donc en France, Mylène Farmer est désenchantée, pendant que Patrick Bruel se demande qui a le droit. Au States, c'est le dilemme de Michael Jackson, Black or White, mais la réponse, elle est chez Prince Cream. Et à la télé, c'est Alerte Malibu et Tiny Toons.
Allez. Ah, deux salles de ambiance, quoi. Ouais.
Voilà, en 1991, donc, il va publier War in Japan dans un magazine de divertissement pour enfants, où c'est un des premiers à parler des atrocités qui sont commises par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale en Chine et en Corée. Un truc moins drôle, sauf que lui, il explique ça en manga et à des enfants. Généralement, un truc qui est pas très très bien vu au Japon à l'époque, et même aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. En 2003, il va finalement enfin retourner en Nouvelle-Guinée et retrouver la tribu qu'il avait accueillie pendant la guerre, pas mal d'années plus tôt. En 2010, la NHK va diffuser une série TV matinale qui s'appelle Gegege no Niobo, qui va simplement narrer sa vie maritale, en fait, sur base de l'autobiographie de sa femme. Une très chouette histoire. Et il va malheureusement nous quitter le lundi 30 septembre 2015 à 93 ans.
Voilà. Oh.
Donc c'est ainsi que se termine l'histoire incroyable de Shigeru Mizuki, un homme ravagé par la guerre, profondément curieux de l'imaginaire des générations précédentes, qui par la seule puissance de sa volonté a réappris à dessiner. Il a transmis sa passion pour les yokai, les sauvant ainsi de l'oubli, parce que sans lui aujourd'hui, il n'y aurait tout simplement plus personne qui se souviendrait de toute l'histoire des yokai. Et si aujourd'hui, on a pu découvrir Yokai Watch, Inuyasha, Nura, Blackbird, Yuakusho ou même Naruto tels qu'ils existent aujourd'hui, et bah c'est uniquement grâce à Shigeru Mizuki et à cette femme qui lui a raconté ses histoires quand il était enfant. Voilà. À noter quand même, j'en parlerai, mais que les quelques œuvres de Mizuki qui sont dispo en France, elles sont chez l'éditeur Cornelius. Et que de tous les éditeurs de manga, c'est probablement celui qui est le moins impliqué sur le marché et l'un dont les prix neufs sont les moins compétitifs.
Ah là là. Bah écoute,
bon, il y a un truc que j'ai très envie de lire, c'est son manga sur Hitler qui est sorti en 71.
Voilà, bah il est du coup sorti, il est sorti 40 piges plus tard, donc en 2011. Il est toujours disponible au prix de 17 balles, je crois.
Et merci à toi, mon cher Camille, pour ce voyage, petit voyage temporel que tu nous fais régulièrement. Ça fait plaisir de nous replacer nos époques. Ça nous permet de replacer les différents.
Et de redécouvrir les classiques un peu oubliés.
C'est ça.
Qui sont pas tous arrivés jusqu'à nous.